Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Mag au carré. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant, un sujet sur lequel à propos duquel on se pose beaucoup de questions, un marché très dynamique, l'immobilier de santé, qui est en pleine ascension, on peut le dire, un marché très solide, en constante progression depuis 2017, malgré la crise sanitaire qui a impacté beaucoup de marchés. Beaucoup de questions qu'on a à poser à nos invités et avec moi pour animer cette émission, Audrey Jourdain. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Très bien, merci. Alors, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Et puis, nous avons donc deux invités pour cette émission. Donc, l'un est avec nous en studio. Il s'agit de Giuseppe Solzettich. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Carit.
Tout à fait.
Et nous avons en visio Pascal Ribadeau-Dumas. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous entendez bien ?
Oui, très bien, parfait.
Parfait, super. Et vous êtes directeur immobilier France de Korian, du coup.
Exactement.
Eh bien, on va commencer sans attendre dans le vif du sujet avec vous, Audrey, puisque c'est l'heure de votre chronique.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
Eh bien, je vous propose de zoomer sur deux excellentes nouvelles pour l'immobilier de santé. Alors, une petite précision avant de commencer pour bien comprendre, l'immobilier de santé regroupe les cliniques et les EHPAD. Mais revenons aux bonnes nouvelles. La première est l'intérêt des investisseurs pour la classe d'actifs qui se renforce chaque année depuis 2017, vous l'avez dit. Le volume investi sur le marché français s'est élevé à 890 millions d'euros environ en 2020. C'est quand même une progression de plus de 11% sur un an. Belle évolution pour une année de crise. Et le marché français n'est pas une exception. Le marché européen, lui aussi, connu une ascension en 2020 avec un volume de près de 9 milliards d'euros. C'est une progression de plus de 6% sur un an. Alors maintenant, la deuxième bonne nouvelle. Eh bien, on peut parier, sans prendre trop de risques, sur l'amplification du phénomène à court, moyen et long terme. Alors pourquoi cet enthousiasme ? Eh bien, la crise sanitaire a mis en exergue la nécessité de la présence d'établissements de santé sur les territoires, de leur bon état général et de leur modernisation. Autre point qui va booster le marché, le soutien grandissant du gouvernement pour le secteur. Mais terminons par trois particularités du marché 2020. Le marché de l'investissement français a été dominé par les opérateurs. Deuxième point, les cliniques ont renforcé leur solidité. Elles ont concentré 70% du volume investi en 2020 contre 55% en 2019. Et dernier point, hors Paris, le taux de rendement prime des EHPAD est de 4% et celui des cliniques varie entre 4,8 et 5%. Mais approfondissons le sujet avec nos deux invités experts du thème.
Merci beaucoup Audrey, que des bonnes nouvelles du coup. On va commencer tout de suite avec des questions pour vous Pascal Ribadeau-Dumas, donc directeur immobilier France à Korian. Alors tout d'abord, quelles sont les problématiques actuelles d'un exploitant de clinique ?
Eh bien, écoutez, on fait face à l'évolution de la population âgée, puisqu'en fait, les 80 et plus vont passer de 27 millions en 2015 à 38 millions en 2030. Donc, on est à plus de 30%. On a à faire face aussi à des pathologies de plus en plus lourdes, puisque la dépendance s'accroît également. Il y a le développement de l'ambulatoire et le maintien à domicile qui ont des conséquences indéniables sur notre immobilier de santé. Donc, il faut donc pouvoir adapter et transformer le parc qui est existant et concevoir différemment les futurs établissements. Donc, les attentes d'un exploitant de clinique sont de pouvoir disposer d'un outil de performant qui répond aux besoins des patients d'une part et du personnel d'autre part. Alors, quels sont les besoins des patients ? Il ou elle va bien évidemment apprécier de disposer de lieux hôteliers conviviaux, agréables, de repas de qualité, évidemment, on est en France, de chambres confortables. Et pour autant, ce qui prime avant tout, c'est la qualité des plateaux techniques, la balnéothérapie, des parcours thérapeutiques. En fait, il faut pour lui disposer au maximum d'activités de réadaptation. Et ce qui est recherché avant tout pour nos exploitants, c'est l'efficacité et c'est un retour à la normale rapide. Donc, notre clinique doit être une vitrine de notre savoir-faire en matière de santé, de soins et de technologie. Et côté exploitant, bien évidemment, c'est la sécurité, le confort, le bon fonctionnement des équipements qui sont des incontournables, non négociables.
D'accord. Et alors, concernant la stratégie d'implantation de Corian, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur celle-ci ?
Écoutez, aujourd'hui, certains de nos bâtiments, puisqu'en fait, on a un parc qui est quand même assez important, que ce soit côté clinique ou côté santé, on a plus de 400 établissements, des établissements qui ont une moyenne d'âge entre 30 pour les EHPAD et 40 pour les cliniques qui sont un peu vieillissants, qui sont plus vraiment obsolètes et plus ne répondant plus forcément tout à fait à nos attentes. En fait, notre stratégie nous a contraint donc de lancer un plan de développement sans précédent. Donc, on réalise avant tout des études de marché qui prennent en compte, bien évidemment, les données démographiques, les taux d'équipement également. C'est pas la peine de s'implanter dans un endroit où on serait suréquipé en termes de clinique ou en termes d'EHPAD, avec une collaboration avec nos tutelles, puisqu'ils sont les ARS et les conseils départementaux qui vont nous flécher certains territoires susceptibles de nous accueillir. Donc, en fait, on va croiser en fait l'étude de marché, les besoins ou en tout cas les conseils des tutelles de telle manière à pouvoir cibler au mieux notre implantation.
Et là, justement, vous parliez des cliniques qui vieillissent et des nouvelles cliniques dans quelques années, dizaines d'années. À quoi ressembleront les cliniques de demain ?
Les cliniques de demain, on va avoir des plateaux techniques, donc on va dire up to date avec de la technologie, pas mal de domotique aussi, puisque effectivement la domotique, les serrures connectées vont nous permettre de faciliter en fait le retour à la normale, des espaces modulables aussi, des espace évolutif, puisque en fait la crise sanitaire l'a révélé, on a besoin en fait de modularité, que ce soit en clinique ou en EHPAD. Et puis on a la réglementation environnementale qui arrive 2022, qui va nous inciter à avoir des bâtiments de plus en plus éco-responsables, sobres et avec une empreinte de carbone réduite. Voilà.
Oui, c'est vrai quoi.
Et je pense aussi. Et puis le BIM, ou en tout cas le jumeau numérique, va nous aider à concevoir de manière optimisée nos bâtiments et aussi à les maintenir de telle manière à pouvoir passer à une maintenance prédictive et abandonner le préventif et le curatif.
D'accord. Et concernant l'EHPAD de demain, la population vieillit de plus en plus, comment voyez-vous les EHPAD de demain ?
Alors, l'EHPAD de demain, le maître mot pour toute la partie clinique, c'est hygiène et soins, autant pour la partie EHPAD, c'est maintien de l'autonomie, en tout cas prolonger l'EHPAD. Ça doit être des lieux en fait de chaleureux, accessibles, ouverts sur le quartier, lumineux. Donc, on va aussi avoir toute la partie domotique, les objets connectés qui vont prendre de plus en plus d'importance afin de prolonger le maintien de l'autonomie de nos résidents. Et de faciliter en fait le maintien de cette autonomie. Ensuite, compte tenu en fait des évolutions démographiques, il va aussi falloir concevoir et réaliser à mon avis de plus en plus rapidement et de plus en plus agile nos bâtiments, donc appliquer les techniques de l'industrie aux bâtiments par le biais du modulaire et avec un volet bien évidemment aussi éco-responsable, puisque on est en face aussi de la réglementation environnementale qui va nous inciter à avoir des bâtiments facilitants, connectés, propices au repos, des lieux fonctionnels, attractifs et ouverts aussi sur la ville, puisqu'une des problématiques de l'EHPAD, c'est aussi de faire rentrer en fait la vie.
Oui, c'est vrai. C'est le plus important. Audrey avait une question pour vous également.
Oui, je reviens sur votre stratégie d'implantation. Quels sont les nouveaux horizons ? Quels sont peut-être, étudiez-vous de nouveaux territoires ?
Actuellement, en fait, on a lancé des schémas directeurs territoriaux, départementaux, sur lesquels on est implanté, puisque, comme vous le savez, en fait, on est soumis à réglementation et nos autorisations valent à l'aune d'un département. Donc, en fait, ça va être une étude pour chaque département sur lesquels on est implanté, de telle manière à pouvoir redimensionner ou réadapter, en fait, nos sites existants. Après, pour nous implanter sur des nouvelles implantations ou sur de nouveaux départements, en fait, une des solutions, en fait, c'est l'acquisition de nouvelles autorisations.
D'accord. Très bien. Ben merci infiniment, Pascal Ribadeau-Dumas. On va passer à notre invité qui est présent en plateau, Giuseppe Zolzettich, directeur général de Kerit. Alors, déjà pour commencer, première question, quelles sont les problématiques liées au foncier pour un promoteur de murs dédié à la santé ?
Alors, c'est une très bonne question, mais je pense qu'il faut déjà bien revenir sur la définition de santé. Donc, Audrey l'a bien expliqué. Dans la santé, on peut classer les cliniques. Dans les cliniques, il y a ce qu'on appelle les cliniques MCO, médecine chirurgie obstétrique, les cliniques psychiatriques et les cliniques de soins de suite et réadaptation. Et ensuite, il y a le médico-social qui aujourd'hui, comme le disait Pascal, fait partie, on va dire, des établissements de santé. Donc, ce sont les EHPAD. On exclut de la santé ce qui est aujourd'hui un petit peu à la mode, ce qui sont les RSS, les résidences services seniors, oui, qui ne sont pas assimilés à de la santé. Et malheureusement, il y a beaucoup de confusion, et notamment dans le cadre des recherches foncières, qui est un des problématiques principales par rapport à votre question, c'est la raréfaction des terrains, des fonciers, et donc il est de plus en plus difficile de trouver des implantations. Par contre, nous avons de plus en plus de demandes de maires de communes qui nous appellent, oui, parce qu'ils savent que nous sommes des professionnels du secteur, en nous demandant, en souhaitant implanter un EHPAD sur leur commune.
Ah oui.
Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, et Pascal le sait très bien. C'est, malheureusement, donc il y a on va dire des cartes sanitaires, il y a des autorisations qui sont, on va dire, au numerus clausus. On ne peut pas aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de création d'EHPAD. Tous les projets d'EHPAD que vous voyez, ce sont des relocalisations d'autorisations existantes ou voire des regroupements d'établissements existants. Donc c'est des reconstructions, mais c'est rarement des créations. Et de ce fait, donc, l'Agence régionale de santé flèche bien les territoires où on peut s'implanter. Donc malheureusement, ça ne se passe pas sur demande, comme peut se faire une résidence service senior qui ne nécessite pas d'autorisation autre qu'un permis de construire. Donc là, il y a tout un processus à suivre. Et bien entendu, pour que l'opération soit viable et faisable financièrement, puisqu'on parle quand même d'établissements de santé, donc qui sont, même si on est sur des établissements privés, ce qu'il faut savoir, c'est que de privé, il n'y a que la gestion qui est privée, mais on va dire les prix restent quand même totalement encadrés. Et du coup, l'opération immobilière, il faut qu'elle ait une faisabilité financière évidente. Et par conséquent, on ne peut pas aller sur des terrains avec des montants financiers ou d'investissements fonciers trop élevés. Et de plus en plus, aujourd'hui, on voit de la surenchère sur des terrains alimentés un peu par des promoteurs généralistes. Et donc, il est difficile après de s'aligner sur des montants puisque le projet ne reste pas faisable.
D'accord. Et est-ce que aujourd'hui, vous voyez une pénurie des matières premières et une pénurie de main-d'œuvre ? On en parle, on commence à en parler. Les matières premières, comment...
Alors, tout à fait. Alors ça, c'est, je crois que tout le monde lit les journaux et puis surtout tous les professionnels de l'immobilier, ouais, le constatent depuis des semaines. Alors cela avait été annoncé. On sait bien qu'il y a beaucoup de matériel qui vient de Chine et qui vient de l'étranger de toute façon. Et aujourd'hui, il y a des plans de relance aux États-Unis qui ont été précurseurs par rapport à ceux en Europe. Donc ils sont, entre guillemets, les premiers servis. Donc aujourd'hui, je vous le confirme, et puis tout le monde, tous les professionnels de l'immobilier ou de la construction vous le diront, il y a réellement des pénuries. Donc aujourd'hui, ces pénuries, on les retrouve notamment dans les finitions et dans l'achèvement des chantiers. C'est-à-dire que les chantiers sont difficiles à terminer parce qu'il manque toujours des composants, des pièces. C'est difficile aussi au niveau des démarrages, notamment au niveau des aciers. Bien entendu, cela a une énorme incidence sur les prix, puisque, bien entendu, les fournisseurs vont un petit peu, des fois, à la surenchère, et je pense que bénéficient aussi, de temps en temps, de cette pénurie. Vous avez des entreprises qui vous font des devis aujourd'hui valables 24 heures, puisque le lendemain, le cours de l'acier peut éventuellement changer, ou d'autres matériaux. Voilà. Donc cette pénurie est réelle. Aujourd'hui, on pense qu'elle va durer sans doute encore peut-être deux saisons. On espère qu'au printemps, on aura pu reconstituer, on va dire, un petit peu les stocks et que cela puisse s'aplanir dans le temps. Concernant la main-d'œuvre aussi, c'est une problématique qui est différente de celle des matières premières. Vous l'avez constaté sur le chantier, il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère, et heureusement, parce qu'aujourd'hui, il y a également une pénibilité de certaines tâches. Il y a eu une modification réglementaire, notamment, qui était liée aux travailleurs détachés, qui est sans doute une bonne chose, mais je pense que les entreprises n'ont pas eu le temps de modifier, on va dire, un petit peu leurs habitudes. Et tout ça, donc, a créé quand même une certaine pénurie. Mais je pense que les fédérations du bâtiment, les organismes de formation sont sans doute les premiers mieux placés que moi pour parler de ce domaine. Et j'espère que dans les prochaines années, on aura sans doute enfin de largement ce qu'il faudra pour pouvoir satisfaire les besoins de nos chantiers.
Bien, on l'espère aussi. Comment ont évolué les bâtiments dédiés à la santé ces 10 dernières années ?
Alors, les bâtiments, alors, ce qui a évolué, c'est déjà l'idéologie. D'abord en termes de bâtiments, il y a eu d'abord une consolidation des groupes, on va dire, de cliniques. Corian est un très, très bel exemple. Il y a d'autres groupes de cliniques privées qui aujourd'hui se développent par croissance externe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'établissements indépendants ou régionaux qui, aujourd'hui, face à pas mal de difficultés ou de vieillissement sans doute des gestionnaires ou propriétaires de ces établissements, décident de vendre leurs établissements. Donc du coup, on a des groupes qui ont de fortes, je dirais, envies de croissance, et c'est très bien. Alors pour financer cette croissance, donc cette croissance, elle s'accompagne par un financement, un achat de on va dire, du fonds de commerce, de l'activité, et un achat souvent de l'immobilier. Donc, bien entendu, nous accompagnons la plupart des foncières à racheter justement ces murs d'établissements et de cliniques à côté d'exploitants d'établissements de santé. Puisque, bien évidemment, un établissement de santé, soit il rachète, on va dire, 10 murs et fonds, soit il peut racheter à la place 20 fonds de commerce si quelqu'un d'autre achète les murs à leur côté. Donc, ça veut dire que cette consolidation s'est accompagnée d'une plus grande partie d'externalisation des murs, ce qui a notamment, ce que vous avez relevé, Audrey, on va dire une croissance de ce marché, puisque les transactions sont forcément beaucoup plus importantes ces dernières années qu'on a pu le voir avant. Ensuite, les bâtiments. Voilà, on a plusieurs types de bâtiments. Donc on a des bâtiments, bien sûr, qui ont un certain âge, qui souvent ont été relativement bien entretenus, et qu'il faut faire absolument évoluer avec les pratiques médicales et les pratiques de prise en charge d'aujourd'hui. Notamment, il y a une énorme explosion de l'activité de chirurgie ambulatoire, alors que pratiquement aujourd'hui, plus de 50% des opérations, je veux dire, même certains établissements dépassent les 70% d'interventions qui se font en ambulatoire. Et ce qui veut dire que forcément, alors qu'on avait avant des moyennes de séjour de 3 à 4 jours, avec l'explosion de l'ambulatoire, la moyenne de séjour baisse et du coup, la nécessité d'avoir beaucoup de lits d'hospitalisation devient moins importante. Et donc, il y a une évolution des établissements qui doivent suivre ces nouvelles pratiques et ces nouvelles réglementations.
D'accord, oui, une évolution, c'est en constante évolution en fait.
Exactement.
Quels sont les territoires porteurs ?
Alors, les territoires porteurs, j'aurais tendance à dire que l'immobilier de santé, ce n'est pas une mode. Et on a tendance un petit peu à se tourner vers l'immobilier de santé au moment des grandes crises. Et donc on le voit bien quand on a les immeubles de bureaux, l'hôtellerie, voilà, qui sont un peu chahutés, malheureusement, pas à cause de cette crise sanitaire. Donc on s'aperçoit que l'immobilier de santé est, entre guillemets, presque une valeur refuge. Oui. Voilà. Donc Pascal le disait très bien tout à l'heure. Il y a bien entendu des études de marché, mais ces études de marché sont toujours... Quand j'ai dit de marché, c'est plutôt des études de besoin, savoir, puisqu'on est en train de parler de soins, de prise en charge de patients, donc où est-ce qu'il y a des patients, puisqu'il y a des mouvements de population aussi qui se créent, voilà, où est-ce que nous allons trouver des populations qui ont besoin donc de ces prises en charge et cet accueil sanitaire. Et cela se fait conjointement avec les autorités sanitaires qui vont délivrer des autorisations où il y a très peu de nouvelles autorisations délivrées. Mais malgré cela, il y a souvent des appels à projets lancés par des ARS par rapport à des demandes. Et donc, il est important que les groupes privés, associatifs aussi, puisqu'il y a, un très grand besoin qui est aussi pris en charge par les groupes associatifs, puissent se placer pour pouvoir obtenir ces autorisations et donc construire ces nouveaux établissements.
D'accord. Merci beaucoup, Giuseppe Zolzetich. Écoutez, Audrey, on a appris plein de choses, on a fait le tour. Merci infiniment à nos deux invités. Alors, on va remercier Pascal Ribadeau-Dumas qui est en distanciel. Bon, merci beaucoup. Vous nous entendez ?
Oui, toujours ? Je vous entends.
Parfait, très merci bien. Beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur immobilier France de Korian. Et merci à vous, Giuseppe Zolzetich, directeur général de Kerit.
Merci pour votre accueil et merci Pascal aussi.
Merci à vous aussi, oui.
avec merci plaisir. On a appris plein de choses sur l'immobilier de santé. Thème du numéro de juillet-août de la lettre Maître au carré. D'ailleurs, j'ai un exemplaire là. Je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran. Oui, on me fait un signe apparemment. On le voit bien. Voilà, il y a tout un dossier à l'ascension de l'immobilier de santé porté par les cliniques. Voilà, donc c'est très intéressant. Merci infiniment, Audrey.
Merci, Bérénice.
Et on se retrouve en septembre pour un prochain numéro du Mag au carré.
Le Mag au carré en partenariat avec la lettre Maître Carré.